Chapitre 2. Seul dans le désert du monde. Gustave revint à son ancienne façon de vivre. Il ne fut pas très distrait par l'idée de sa grandeur future comme seigneur de Beaubocage et Côte-Noire. Il sentait quelquefois comme un poids qui oppressait son esprit, et en recherchant la cause, il trouva que ce poids était Madelon Frelter. Il continua néanmoins à le porter légèrement et à jouir de sa liberté d'étudiant sans trop penser à l'avenir. Il expédia des compliments polis à Mademoiselle Frelter dans ses lettres à Cydalise. Il reçut de Cydalise force informations mieux rédigées qu'intéressantes au sujet de la famille de Côte-Noire. C'était le court été de sa jeunesse, mais hélas, combien était proche le sombre hiver qui viendrait glacer son cœur joyeux et franc. Ce cœur si compatissant, si tendre aux misères du sexe féminin, allait être attaqué par son côté le plus faible. Gustave avait l'habitude de traverser tous les matins le jardin du Luxembourg en allant à l'école de droit. Quelquefois, lorsqu'il était plus matinal que de coutume, il emportait un livre et parcourait, en lisant, une des allées les plus sombres en attendant l'heure du cours. Comme il se promenait un matin avec son livre, un volume de Boileau que l'étudiant savait par cœur, il passa et repassa devant un banc sur lequel une dame était assise. Elle était seule et semblait pensive. Elle traçait sur le sable des figures sans forme avec l'extrémité de son ombrelle. Il jeta sur elle un regard, d'abord indifférent, plus curieux la seconde fois qu'il passa devant elle et qui devint la troisième très attentif. Quelque chose dans son attitude, abandon, manque d'espoir, désespoir même, exprimé par l'inclinaison de tête, le jeu indifférent de la main qui traçait sur le gravier des caractères sans signification, excita les sympathies de Gustave. Il l'avait prise en pitié avant même que son regard eût pénétré jusque dans les profondeurs du chapeau de cette époque. Mais dès qu'il eut entrevu sa pâle, sa triste figure, une inexprimable compassion s'empara de lui. Jamais il n'avait vu quelque chose d'aussi désespérément triste. Jamais il n'avait vu un visage aussi beau en dépit du chagrin qui l'altérait. Il crut voir Andromaque, après qu'elle eut perdu tout ce qui lui était cher au monde, Antigone, lorsque fut prononcé le terrible décret de bannissement. Il mit Boileau dans sa poche. Cette souffrance, qui se révélait à lui sans le vouloir, lui inspirait un intérêt plus absorbant que les satires de son poète. Comme il passait pour la cinquième fois, il jeta sur la dame un regard encore plus investigateur, et cette fois, les yeux de celle-ci se levant vers lui, rencontrèrent les siens. Ses belles lèvres s'agitèrent et prononcèrent en tremblant quelques paroles inintelligibles. L'étudiant ôta son chapeau en s'approchant avec déférence. « En quoi pourrais-je avoir le bonheur de vous être agréable, madame ? » dit-il. « Vous êtes bien bon, monsieur, » murmura la dame en un français très correct, mais avec un accent évidemment étranger, anglais à ce que pensa Gustave. « Je suis tout à fait étrangère à Paris, et j'ai entendu dire qu'il y a dans ce quartier beaucoup de logements meublés. Où pourrais-je en trouver un qui ne soit pas cher ? Je me suis adressée à plusieurs nourrices et autres femmes dans le jardin ce matin, mais elles semblent stupides et n'ont rien pu me dire. » « Je ne voudrais pas demander à l'hôtel où je demeure. » Gustave réfléchit. « Oui, il y a beaucoup de logements par ici, » dit-il à la dame. Et il pensa à Madame Magnotte. N'était-ce pas son devoir de procurer cette pensionnaire à la digne dame, si cela était possible ?« Madame, si vous n'avez pas d'objection contre une pension bourgeoise, » commença-t-il à dire. La dame secoua la tête. Une pension bourgeoise me conviendrait tout aussi bien, mais il ne faut pas qu'elle soit chère. Je ne puis pas payer beaucoup. Je connais une pension bourgeoise très près d'ici, madame, où vous pourrez trouver à vous loger très convenablement à un prix fort raisonnable. C'est la maison dans laquelle je demeure moi-même, ajouta Gustave avec quelque timidité. Si vous voulez avoir l'obligeance de m'indiquer cette maison, dit la dame en regardant devant elle d'un air égaré. Elle était évidemment tout à fait indifférente à ce que le noble demeura ou ne demeura pas dans la pension en question. « Si vous voulez me le permettre, madame, j'aurai l'honneur de vous y conduire. Ce n'est qu'à 2 pas d'ici. » L'étrangère accepta cette politesse avec une gracieuse insouciance, qui n'était pas de l'ingratitude, mais plutôt une impuissance à éprouver d'autres sentiments que celui du chagrin qui semblait l'absorber. Gustave se demandait quelle calamité pouvait ainsi accabler une femme si jeune et si belle. La dame demeura tout à fait silencieuse pendant le trajet du jardin du Luxembourg à la rue Madame. Gustave la considérait attentivement pendant qu'il marchait à son côté. Elle n'avait pas plus de 23 à 24 ans, et était décidément la plus jolie femme qu'il eût jamais vue. C'était une blonde délicate, une beauté anglaise, un peu fatiguée et flétrie, comme par les soucis, mais aussi, à cause de cela, idéalisée, plus divinement belle. Dans ses beaux jours, cette étrangère avait dû être d'une beauté éblouissante. Dans sa misère, elle était intéressante au plus haut degré. C'était ce que les concitoyens de Gustave appellent une beauté navrante. Il l'observait avec étonnement. Ses vêtements étaient d'une certaine élégance, mais ils avaient perdu toute fraîcheur. Son châle, qu'elle portait avec une grâce toute française, était reprisé. Gustave remarquait ces reprises faites avec soin, mais qui laissaient deviner la pauvreté de la personne. Qu'elle fût pauvre, cela n'avait rien d'étonnant, mais qu'elle fût ainsi triste et délaissée, obligée de chercher son logement dans une ville étrangère, était une énigme peu facile à expliquer. Gustave introduisit l'étrangère chez Madame Magnotte. Elle ne jeta qu'un regard autour du sombre salon, mais pour Gustave, ce seul regard fut suffisamment éloquent. « Ah, malheureuse que je suis !» signifiait-il. « Est-ce là la plus belle demeure qui me soit réservée sur cette terre inhospitalière ?»« Il semble qu'elle n'appartienne pas à un monde inférieur, » pensa le jeune homme, en retournant au Luxembourg, car il avait été congédié sans façon par Madame Magnotte tout de suite après la présentation. Alors le noble, qui avait l'esprit romanesque, se rappela une histoire qu'il avait entendue conter, une sombre et absurde histoire. Un étudiant trouve un beau jour une femme magnifique assise sur les degrés de la guillotine. Il la saisit et l'emporte. Une fois dans sa chambre, il se jette à ses pieds, lui jure qu'il l'adore. Horreur ! La femme n'était qu'un cadavre sur le cou duquel on avait replacé la tête tranchée. Cette Anglaise étrange qu'il avait trouvée dans le jardin du Luxembourg n'était-elle pas la sœur jumelle du spectre de la légende ? Sa beauté et son désespoir lui semblaient ne pouvoir appartenir à la terre. Il lui était impossible de croire qu'elle fût de la même nature que Madelon. À partir de ce moment, le fardeau qui avait pesé sur son esprit d'une façon vague, intermittente, devint une oppression incessante dont aucun effort de sa volonté ne pouvait le délivrer. Pendant cette journée entière, il se surprit pensant à l'Anglaise inconnue plus qu'il ne convenait. Il s'en voulait à lui-même de cette folle distraction d'esprit. « Que je suis fou !» se disait-il, « de me préoccuper ainsi d'un fait aussi insignifiant. Cela tient sans doute à la monotonie de la vie que je mène. » Au dîner, il chercha la dame anglaise, mais elle ne parut pas à la longue table où les vieilles, à la voix criarde, les étudiants tapageurs, dévoraient chaque jour en maugréant les 2 ou 3 plats extraits par la vieille Nanon des profondeurs de sa conscience, avec les ressources d'un garde-manger non moins légèrement garni. Quand le dîner fut fini, il questionna Madame Magnotte et apprit d'elle que la dame était dans la maison, mais qu'elle s'était trouvée trop fatiguée pour dîner avec les autres pensionnaires. « J'ai à vous remercier de m'avoir procuré cette nouvelle cliente, mon ami, » dit-elle. « Madame Meynell ne paiera pas cher, mais elle paraît être une très respectable personne, avec laquelle j'espère très bien m'entendre. » « Madame Meynell, » répéta Gustave, satisfait de savoir que la dame anglaise habiterait la même maison que lui. « C'est une veuve, je présume. »« Oui, elle est veuve. Je lui ai fait cette question et elle a répondu oui, mais elle ne m'a rien dit de son défunt mari. Elle n'est pas du tout communicative. » C'est là tout ce que Gustave put apprendre. « Elle n'est pas communicative. » C'est à peine si elle était moins silencieuse que la dame assise sur les marches de l'échafaud. Une sorte de mystère paraissait caché dans son chagrin. Peut-être était-ce le fait même de ce mystère qui intéressait le noble. Toujours est-il que l'inconnu avait frappé l'imagination du jeune homme infiniment plus que sa fiancée. Il attendit le jour suivant avec anxiété, mais le jour suivant, Madame Meynell s'excusa de nouveau, se disant indisposée. Ce fut seulement le troisième jour qu'elle parut à la salle à manger, pâle, silencieuse, distraite, sous la protection de Madame Magnotte, qui paraissait disposée à la bienveillance. La jeune veuve anglaise faisait sur Gustave l'effet d'un revenant. Il la regardait de temps à autre, et toujours il voyait dans ses yeux le même regard, ce regard douloureux, désespéré. Il était lui-même silencieux et distrait.
« À quoi donc rêves-tu, farceur ?» lui dit son plus proche voisin. « Tu es ennuyeux comme la pluie. »
Le noble ne pouvait être ni vif ni gai pour faire plaisir à son compagnon d'école. Cette étrange figure pâle l'absorbait et l'oppressait en même temps. Il espérait avoir quelques minutes d'entretien avec la dame anglaise après le dîner. Mais elle disparut pendant que l'on mettait sur la table les secrètes préparations qui, à la pension Magnotte, portaient le nom de dessert. Pendant plus d'une semaine, elle parut ainsi au dîner, mangeant fort peu, ne disant pas un mot, sauf quelques monosyllabes que l'hôtesse arrachait de temps en temps à ses lèvres pâles. Une personne tout à la fois si belle et si profondément triste en intéressa bientôt d'autres que Gustave. Mais sur personne, sa tristesse et sa beauté ne firent une si grande impression que sur lui. Son image le poursuivait. Il quitta ses plaisirs, ses distractions ordinaires. Il préférait passer ses soirées dans l'horrible salon, se tenant pour satisfait d'entendre le caquetage des vieilles dames, les lugubres sonates de la petite maîtresse de musique, le bruit monotone des voitures qui passaient dans la rue, n'importe quoi plutôt que les bruits habituels de sa vie d'étudiant qui lui avait été si doux jusque-là. Il ne manquait pas d'adresser à Cydalise sa lettre chaque semaine. Mais, pour une raison ou pour une autre, il s'abstenait de faire aucune allusion à la dame anglaise, bien qu'il fût dans ses habitudes de raconter toutes ses aventures pour l'amusement de la famille à Beaubocage. Un soir vint enfin où l'on obtint de Madame Meynell qu'elle restât avec les autres après le dîner. « Vous êtes bien froidement et bien tristement dans votre chambre à coucher, lui avait dit Madame Magnotte. Pourquoi ne pas passer la soirée avec nous ?»« Vous êtes bonne, madame, avait murmuré la dame anglaise, avec le bas et timide accent dont le son paraissait si plaintif à l'oreille de Gustave. « Si vous le désirez, je resterai. » Elle semblait se soumettre plutôt par crainte ou embarras de formuler un refus que par l'espérance d'un plaisir. C'était un soir de mars, froid, orageux. Le vent d'est chassait des nuages de poussière le long de la rue Madame, et le petit nombre des passants qui montaient ou descendaient la rue paraissait transi. Les vieilles dames étaient groupées près du grand poêle de faïence et jasaient à la lueur du crépuscule. La maîtresse de musique alla à son pauvre piano et se mit à jouer sans que personne le lui eût demandé. On n'y fit pas attention. Gustave, qui ordinairement tournait les feuilles, paraissait ce soir-là complètement indifférent à la musique. Madame Meynell s'était assise, seule, près de l'une des fenêtres, à demi cachée sous les rideaux de damas jaune fané, regardant dans la rue. Une sorte d'impulsion, à laquelle il tenta vainement de résister, entraîna Gustave vers elle. Il s'avança donc près de l'anglaise. Ce soir-là, comme dans le jardin du Luxembourg, elle lui sembla être la statue vivante du désespoir. À ce moment, comme alors, il s'intéressait à son chagrin avec une vivacité qui le surprit, mais qu'il n'était pas assez fort pour dominer. Il éprouvait comme une vague idée que cette sympathie était en quelque sorte une offense pour Mademoiselle Frelter, pour la femme à laquelle il appartenait, et cependant il s'y abandonnait. « Oui, je lui appartiens, se disait-il en lui-même, j'appartiens à Mademoiselle Frelter. Elle n'est ni belle ni séduisante, mais j'ai tout lieu de la croire très bonne, très aimable, et elle est la seule femme, celle de ma famille exceptée, à laquelle il me soit encore permis de prendre intérêt. » Ce n'était peut-être pas le texte, mais cela y ressemblait. Madame Meynell tressaillit légèrement au moment où il s'approcha d'elle, et, levant les yeux,
elle reconnut en lui la personne avec laquelle elle avait fait connaissance au Luxembourg. « Bonjour, monsieur, » dit-elle, « je vous fais mes remerciements de m'avoir aidé à trouver une demeure convenable. » Ayant dit cela d'une voix basse et douce, elle tourna de nouveau du côté de la rue ses regards attristés. Il était évident qu'elle n'avait rien de plus à dire à le noble. L'étudiant, cependant, n'avait pas l'idée de s'éloigner de la fenêtre immédiatement, bien qu'il sût, oui, il savait, que sa présence en cet endroit était un tort envers Mademoiselle Frelter. Mais un tort si petit, si imperceptible, qu'il ne valait réellement pas la peine d'être pris en considération. « Je suis charmé de penser que j'ai pu vous rendre un léger service, madame, » dit-il. « Seulement, je crains que vous trouviez fort triste ce quartier de Paris. » Elle ne fit aucune attention à cette remarque, jusqu'à ce que Gustave lui répétait une seconde fois. Alors, comme soudainement éveillée d'un songe, elle répondit « Triste, non, je ne l'ai pas trouvé triste. Je ne tiens pas à la gaieté. » Après cela, le noble comprit qu'il ne pouvait décidément rien dire de plus. Il retomba dans sa rêverie. Les nuages de poussière dans la rue silencieuse lui semblaient plus intéressants que le noble de Beaubocage. Gustave demeura quelques instants dans le voisinage de sa chaise, observant son délicat profil, son teint pâle, le contour exquis de sa bouche, ses grands yeux rêveurs. La veuve anglaise continua de venir passer ses soirées au salon de Madame Magnotte. Les vieilles françaises bavardaient et s'étonnaient, mais l'imagination la plus fertile n'eût pu écrire une histoire sur les pages blanches de cette existence privée de tout plaisir. La calomnie même n'eût pu trouver à mordre sur une créature aussi absolument simple que la pensionnaire étrangère. Les vieilles dames haussaient les épaules en contractant les lèvres avec une solennité significative. Il y avait certainement quelque chose, un secret, un mystère, un chagrin ou une mauvaise action, quelque part, mais de Madame Meynell elle-même, aucune ne pouvait supposer le moindre mal. Gustave entendit peu de choses de ces babillages, mais la dame n'occupait pas moins complètement ses pensées. Son image venait constamment se placer entre lui et son code, et lorsqu'il songeait à l'avenir, à la demoiselle qui lui était échue en partage pour femme, ses pensées devenaient de plus en plus amères. « Le sort suit l'exemple de Laban », se disait-il en lui-même. « Un homme travaille et remplit son devoir pendant 7 ans, après quoi le sort lui donne Léa au lieu de Rachel. Sans doute, Léa est une très bonne jeune femme, il n'y a rien à dire contre elle, si ce n'est qu'elle n'est pas Rachel. » Cela n'était pas, pour le futur maître de Côte-Noire, une manière encourageante d'envisager les choses. À partir de ce moment, les lettres de Lenoble à ses curieux parents de Beaubocage devinrent plus courtes et moins satisfaisantes. Il cessa de donner d'amples détails sur sa vie d'étudiant, il cessa d'écrire avec sa gaieté habituelle. « Je crains qu'il n'étudie trop, » disait la mère. « Je croirais plutôt, suggérait le père, que le drôle se laisse entraîner à la dissipation. »